Bonjour, ici François Nardou, depuis les studios du Boulevre, dans le cadre de l'émission de Noël. Alors Noël, c'est le jour clé de l'année et de l'hiver. J'avais envie d'intituler cette émission « Pour Noël, chacun chez soi ». C'est un proverbe occitan, Père Nadal, « Cadun, dinous se oustal », chacun dans sa maison. Vous connaissez le chant de Noël allemand bien connu sur le sapin, le Tannenbaum. Quand par l'hiver, bois et forêts sont dépouillés de leurs attraits. L'Allemand dit autre chose, peu importe. Il se trouve qu'à mon cul qu'on a la chance à ce moment-là de pouvoir aller cueillir des fraises de Noël. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les fraises de Noël? Des fraises à Noël, en plein bois, en pleine nature. Je ne citerai pas le nom de l'endroit car je tiens à le garder secret. Mais les fraises de Noël, en bon occitan, c'est les arbouses, tout simplement. Alors qui portent plusieurs noms. Arbouzos, les enquercis d'après le dictionnaire français-occitan de Piat, il faudrait vérifier dans Zalibert, ça porte le nom de Ledounos, qui s'écrit Ledonas. Le Ledounier, c'est l'arbousier. On l'appelle aussi le faux fraisier, false fragier. Alors ramasser des arbouses, des fraises de Noël en plein hiver, c'est tout à fait possible chaque année. Et c'est un spectacle merveilleux que de découvrir à l'orée des bois, lorsque le soleil se lève, après la gelée blanche, le spectacle de ces baies rouges sur le fond vert foncé du feuillage, agrémenté du blanc des fleurs d'arbousier, car l'arbousier fleurit à l'automne, mais à l'automne mûrit les fruits de l'année précédente. C'est un spectacle où on peut avoir à mon cul dans certains coins dont je tiens le secret. Ce temps de Noël, il est connu dans les recherches des folkloristes, traditionalistes, mythologues et autres, parce qu'il est marqué par sa situation dans le calendrier. Le temps de Noël, les 12 jours de Noël au roi sont 12 jours hors du temps, 12 jours hors du calendrier. Même ça se renforce par une constatation que j'ai faite en préparant cette émission, c'est que d'après les proverbes, les mythes, les légendes, les traditions, la période qui va de la Sainte Luce, 13 décembre, jusqu'à la Saint-Hilaire, 14 janvier, est une période de 28 jours, donc une lunaison. Et au centre de ces 28 jours, le 14e jour, c'est la Noël, qui se trouve au milieu de cette lunaison. Or, si vous calculez un peu, si vous divisez le nombre de jours de l'année solaire, 365 jours, par 28, vous trouvez 13, c'est-à-dire 13 lunaisons de 28 jours. C'est la fameuse 13e lunaison qui est tellement sacrée qu'elle en est redoutable. Et cette lunaison, c'est celle qui va de la Sainte-Luce à la Saint-Hilaire, au centre de laquelle se trouve Noël, au départ des 12 jours de Noël au roi. On a là un emboîtement de périodes sacrées dont la mémoire, la connaissance, reste à l'état de vestige dans les proverbes. Et c'est par les proverbes qu'on peut reconstituer cette période sacrale, calendaire, de l'Europe ancienne, l'Europe de bien avant le christianisme, l'Europe du néolithique de l'âge du bronze, celle qu'a étudiée Maria Gimbutas dans son fameux ouvrage « Goddesses of the Old Europe », dont je recommanderai la lecture à tout le monde, « Dieux et déesses de la vieille Europe ». Une chose qui m'a frappé par l'examen du paysage depuis mes fenêtres, sur la vallée de la Négevieille, à Montcuq, c'est que le blé semé entre Toussaint et le 11 novembre, certes commence de naître dans les semaines qui suivent, dès le début décembre il est sorti du sol, mais il ne forme vraiment un tapis végétant couvrant le sol que vers le 6 janvier. Et c'est au 6 janvier du reste que l'on voit bien le rallongement des jours. Alors, ce rallongement des jours, il est connu par le fameux dicton, proverbe, qui pose un problème. Je vais commencer par le plus simple. Bon, certes, il y a per Santo Lusso, lui zur Screisun d'une salle de pius. Pour la Sainte Luce, les jours croissent d'un saut de puce. Mais je vous ai expliqué dans l'émission précédente que c'était dû à des problèmes de, comment dirais-je, d'inadaptation du calendrier de Jules César au calendrier astronomique. Qu'en fait, cette Sainte Luce correspondait à notre 24 décembre. Alors, le proverbe, il est connu. Per Nadal. Est-ce que je vous le dis en français? Pour Noël, allez, on va partir dans le français. Pour Noël, les jours croissent d'un pied de coq. En occitan, ça rime. Per Nadal, lui zur Screisun, d'une paix des Galles. Le Galles, c'est le coq. Per Saint Thomas, le problème, c'est qu'il y a deux Saint Thomas. 21 décembre, l'apôtre. 29 décembre, Saint Thomas de Canterbury, mort en 1179, ce qui permettrait de dater la formation du proverbe. Per Saint Thomas, l'Utsur Creysun, de la bouche au nas. Les jours croissent de la bouche au nez. Ça ne fait pas une grande distance. Alors, on passe du coq au visage de l'homme. Per San Silvestre, Saint-Sylvestre, d'une passe des maîtres, du pied d'un homme, d'un pied de maître. Per l'anneau, d'une paix des bois, pour l'an nouveau, d'un pas ou d'un pied de bœuf. Et per lui reis, d'elle passe des une bouey. Et pour les rois, du pas d'un bœuf. Donc, vous avez là trois figures qui apparaissent, le coq, l'homme, le bœuf. Et ça se termine avec la croissance des jours qui s'achève de se montrer de façon vraiment manifeste pour les rois, pour l'épiphanie, lorsque les jours, vraiment, on voit très bien le rallongement des jours et ce spectacle toujours merveilleux des champs labourés couverts du blé nouveau. C'est à l'origine d'une tradition que l'on connaît dans tout le sud de la France et même ailleurs, qui consiste le jour de la Sainte-Barbe, 4 décembre, à semer dans des espèces de coupelles en terre cuite des graines de blé que l'on arrose et que l'on met à germer. Et ces graines de blé doivent être parfaitement bien développées pour les rois, pour le jour des rois. Ça rappelle le fameux rite dans l'Égypte ancienne, de ce qu'on appelait les Osiris végétans. C'était une coutume de l'Égypte ancienne de semer des graines de blé au début de la saison agricole qui en Égypte commence à l'automne, qui était en pleine végétation, dans des coupelles, pour ce qui correspond à notre solstice d'hiver. Il y a donc là, si vous voulez, une influence possible de l'Égypte ancienne, que l'on retrouvera du reste quand je vais vous parler d'autre chose sur la fixation de la fête de la naissance du Christ au jour de Noël. Et également pour ce qui est de l'instauration de la fête de l'Épiphanie, où l'influence de l'Égypte pharaonique, plus que de la Grèce ancienne, plus que de la religion romaine, sont prégnantes. Alors il y a un dicton qui me revient, que je tiens de mon père, originaire des Charentes, du Cognacé, et qu'il m'a souvent cité. Sa propre grand-mère observait très attentivement cela. On veut dans les pays d'entre Loire et Gironde, mais ça se retrouve ailleurs, on retrouve ça dans beaucoup de régions, que chacun des 12 jours entre Noël et le jour des rois corresponde pour ce qui est du temps qu'il fait et du temps qu'il fera à chacun des 12 mois de l'année suivante. C'est le temps de chaque jour entre Noël et le jour des rois vous annonce le temps qu'il fera chacun des 12 mois correspondants de l'année suivante. C'est-à-dire le temps de Noël vous annonce le temps de janvier, celui du 26 décembre, celui de février, etc. etc. Mais on s'aperçoit qu'en fait, si on tient bien compte de l'existence de cette fameuse lunaison hors du temps, sacrale, ancienne, qui va de la Sainte-Luce à la Saint-Hilaire, que l'année agricole nouvelle ne commence qu'après la Saint-Hilaire, après le 14 janvier. C'est toujours vrai dans les collèges et écoles privées de l'Angleterre actuelle, qui a conservé beaucoup de traditions médiévales. Le second trimestre de l'année commence pour la Saint-Hilaire, on l'appelle le Hilary Storm, le trimestre de la Saint-Hilaire. Alors que le premier, c'est celui de la Saint-Michel, Michael's Storm, Saint Michael, le trimestre de la Saint-Michel, 29 septembre. Alors ces 12 jours, en Charente, et pas qu'en Charente, la même chose existe en Alsace, on m'a la cité pour la Hongrie. Alors c'est très curieux, on la connaît tantôt, parce qu'elle est associée également à une autre tradition au sujet de la Semaine Sainte. Alors certaines régions ne connaissent cette tradition que pour la Semaine Sainte, pas pour les 12 jours entre Noël et le jour des rois, d'autres uniquement pour la période de Noël, d'autres pour les deux, Noël et Pâques. C'est très prégnant dans les pays d'entre Loire et Gironde, l'ancienne vieille Aquitaine qui a conservé beaucoup de souvenirs de la Rome du 4e siècle, de la Rome de Constantin, le premier empereur chrétien et de ses descendants, jusqu'à son successeur Théodose, le premier empereur qui a véritablement établi le christianisme comme religion d'État dans l'Empire. Il y a une tradition qui veut que les 12 jours de Noël au roi appartiennent à la Sainte Vierge, que, même plus exactement, les eaux de sources, de fontaines, de rivières coulant de Noël au roi soient sous la domination de la Sainte Vierge. Il y a un tabou, un interdit, qui veut que qui lave son linge entre Noël et les rois lave son linceul, doive mourir dans l'année ou fasse mourir quelqu'un de sa famille. Ce tabou est inconnu en Quercy. Les gens du pays auquel j'en parle ne connaissent pas du tout ça. En Alsace, on le connaît. On le connaît en Hongrie. Je tiens ça d'une personne de ma connaissance qui est d'origine hongroise et qui vit en Alsace. Alors ce proverbe, ça m'avait toujours intrigué. J'ai dit, tiens, il y a un tabou sur les eaux, il ne faut pas souiller les eaux. En fait, il ne faut pas souiller les eaux parce que la Sainte Vierge se sert des eaux de rivière pour laver les langes de l'enfant Jésus. C'est l'interprétation. En fait, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que, très curieusement, dans l'Égypte ancienne, à Alexandrie, fondée par Alexandre vers 320 avant notre ère, donc c'est une tradition des trois derniers siècles avant notre ère et qui va se continuer jusqu'à la christianisation de l'Empire et même au-delà, ça correspond du reste à la période de formation de ce qu'on appelle la gnose, c'est-à-dire la connaissance secrète, interdite et cachée, la connaissance sacrée. Et à Alexandrie, il y avait une très forte communauté juive, mais aussi grecque. La ville était interdite aux Égyptiens de naissance. À Alexandrie, une tradition voulait que, dans la nuit du 24 au 25 décembre, on célèbre des rites, des fêtes, car on pensait que dans cette nuit-là, le temps infini, le flux du fleuve du temps, dans lequel on ne descend jamais qu'une fois, selon Héraclite, donc le temps infini, qu'on appelle en grec « aion », c'est un neutre, « to aion », le temps infini était engendré, était enfanté par une vierge, « parthénos » en grec. La vierge a enfanté le « aion », le temps infini, disait-on à Alexandrie. Mais cela se renouvelait chaque année. Ça voulait dire qu'on était dans une conception du temps formée de cycles répétitifs, successifs. Le temps était considéré comme une roue qui tourne, si vous voulez. C'est au fond le zodiaque. Et on retrouve ça dans nos régions où, je vous le disais, ça explique le fameux interdit tabou charenté sur la lessive dans les eaux de rivière entre Noël et les rois, parce qu'on me disait, les eaux de rivière, me disait la famille de mon père, appartiennent à la Sainte Vierge. Au fond, c'est la vieille image qui nous vient de l'Antiquité, parce qu'Héraclite, c'est le 6e siècle avant notre ère. Hein. Que le temps, c'est un fleuve, c'est un flux dans lequel on descend, on ne peut y descendre qu'une fois. Et ce flux du temps, pour les Alexandrins, qui sont des Grecs, mais avec une culture scientifique, savante, extrêmement poussée, le temps est composé de cycles répétitifs. Et le temps naît d'une vierge. Alors qu'est-ce que c'est que cette vierge? Je me suis posé la question, est-ce que c'est l'Athéna des Grecs, qui était considérée comme la vierge par excellence, c'était la déesse vierge? Est-ce que c'est Isis, assimilée à une autre déesse égyptienne, Neith, qui a été assimilée à Athéna par les Grecs et par les Égyptiens? Mais Isis figurait très souvent dans la statuaire, assise sur un trône, ayant son fils Horus, né de ses amours avec Osiris. Osiris est le frère d'Isis, et Isis et Osiris ont un fils, Horus. Isis est figurée assise sur un trône, tenant Horus sur ses genoux, exactement comme les vierges à l'enfant du Moyen-Âge. Ces vierges à l'enfant qui sont souvent noires. Or, n'oubliez pas que si Isis, c'est la blanche, le terme veut dire « Ishet, c'est le trône ». Mais si c'est la blanche, elle est une des déesses principales de l'Égypte. L'Égypte, c'est Kemit. Ça veut dire la noire, le pays noir, la terre noire de la vallée du Nil. Donc, si vous voulez, Isis, portant le jeune Horus sur ses genoux, elle est aux origines de nos vierges à l'enfant du Moyen-Âge. Et cette prégnance de l'Égypte sur les traditions de nos régions est curieuse, parce que c'est la seule explication de la tradition et du tabou charentais, poitevin, alsacien, hongrois, parce que n'oubliez pas que nos Hongrois actuels viennent d'Asie centrale. Ce sont les descendants des Avars et des Huns d'Attila, qui sont restés dans la plaine de Pannonie. Donc ils ont là subi aussi une influence. Par la christianisation du peuple magyar vers l'an 1000, il y a eu un transfert de traditions venues de l'Égypte ancienne. Il ne faut donc pas s'étonner si on retrouve de pareilles traditions dans nos régions, à cause de l'influence qu'a eue l'empereur Constantin dans la formation de la culture des pays d'entre la Loire et, je dirais, les Pyrénées même. Alors, il y a une autre tradition que je tiens là aussi de mon père et qui concerne la nuit de Noël et plus exactement la messe de minuit et plus exactement les 12 coups de minuit. Mais ça se raconte un peu partout. Que les pierres levées, là, les peiros levados, les menhirs si vous voulez, les pierres dressées, pendant les 12 coups de minuit, il faut que ça aille vite, quittent leur siège pour aller se baigner dans les eaux de sources sacrales, de sources saintes, vouées à Saint-Jean-Baptiste, par exemple, Saint-Jean-le-Froid dans le pays de Montcuq, et c'est très souvent le cas, source de Sainte-Marie-Madeleine. Or, le nom de Marie-Madeleine, ça veut dire Marie de la Haute Tour, Magdala, en hébreu, Migdol, c'est une tour, Marie de la Haute Tour, Marie de la Tour, si vous voulez. Alors, ces menhirs, quittant leur siège, ils vont se baigner dans des sources, et ça laisse le temps aux audacieux, assez téméraires pour le faire, de découvrir l'entrée de souterrains cachés par ces menhirs, souterrains au fond desquels se trouvent des trésors infinis. La corne d'abondance, pourrait-on dire, mais plus que cela, des trésors merveilleux. Et ces trésors et les souterrains qui y mènent donnent accès au monde de l'au-delà, au monde chthonien, le monde des morts. C'est aussi un monde de la lumière infinie, mais cela au péril de l'impétrant, car la plupart du temps, bon, la tradition veut que ceux qui ont essayé de s'emparer de ces trésors aient vu les menhirs se rabattre dans le trou et enfermer les audacieux dans le souterrain. D'où, dans la légende, ils ne peuvent sortir qu'un an après. Un an après, pendant lequel se sont écoulés sur la Terre des siècles et des millénaires. C'est-à-dire que vous croyez passer à peine un an sous Terre et en fait vous passez un siècle ou X siècles. Alors ça, c'est un peu aux origines. C'est en lien avec les mythes sur les nains gardiens de trésors. Trésors qui, évidemment, ne sont accessibles qu'au péril de l'audacieux qui y pénètre. Ça évoque certains mythes modernes nés au XXe siècle. Je pense, par exemple, au fameux mythe de Reine le Château et de la Bessonnière, qui aurait découvert un trésor merveilleux au péril de sa vie, et qui, ayant failli être tué en allant chercher des trésors dans les grottes qu'il avait découvertes, a renoncé à continuer ses recherches. Comme quoi, quelquefois, le mythe, ça se renouvelle tout au long des siècles et des millénaires. Ce n'est pas propre à une certaine époque de l'histoire. Pour continuer un peu mon exposé, je vais vous parler maintenant de proverbes de saison. L'Occitan va être mis à la mode. Du pays de Charente et du Cognacé, de mes ancêtres paternels, on va passer au pays d'Oc, quoique bon, j'ai des ancêtres dans le Périgord également, du côté de mon père. Alors, il y a un proverbe bien connu. Nadal al souleliu, Pascos al cantu. Noël au balcon, le souleliu, le fameux balcon couvert du Quercy. Pâques au tison, Pâques dans le coin de la cheminée. On dira également per Nadal muscalius, per Pascos glaceirus. Pour Noël des moucherons, pour Pâques des glaçons. Il y en a un autre. Quiu per Nudel se souleglio, per Pascos cramo la legno. Qui pour Noël se chauffe au soleil, comme la chandeleur, pour Pâques brûle son bois, la legno. Un proverbe est plus rassurant, il nous dit ceci, une messe enan de Nadal, une messe al pre de Nadal, la frezzo es buono et calpas ne tira mal. Un mois avant Noël, un mois après Noël, le froid est bon et il ne faut pas en tirer de mauvais présages, il ne faut pas le redouter. Je vous signalerai qu'en occitan, la frezzo c'est du féminin. Ce qui fait donc que le véritable hiver dans nos régions va depuis la Sainte Catherine, 25 novembre, un mois avant Noël, jusqu'au 25 janvier, un mois après Noël, qui est la fête de la conversion de Saint-Paul. Alors là, bon, je mets un petit appât. C'est le temps qu'il fait le 25 janvier. S'il confirme celui du 22 janvier, jour de la Saint-Vincent, si ce jour de la Saint-Vincent, l'hiver précédent, c'est la fin de l'hiver. Vous connaissez le fameux proverbe, « Per San Vicens, l'hivern quitos aidens, ou l'aiboto plus escusens ». Pour la Saint-Vincent, 22 janvier, l'hiver précédent ou les pousses plus tranchantes. Et si jamais il fait le même temps pour la conversion de Saint-Paul, 25 janvier, ça confirme les prédictions qu'on peut tirer du temps de la Saint-Vincent. Donc si vous voulez, le cœur même de notre hiver quercinois, notre hiver du bassin d'Aquitaine, c'est deux mois. De la Sainte-Catherine, 25 novembre, au 25 janvier, conversion de Saint-Paul. Alors d'autres proverbes sont intéressants. Par exemple, on veut que, selon la place de Noël dans la lunaison en cours, nouvelle lune, pleine lune, fin de lunaison, selon le quantième, la nuit de la lunaison où se trouve Noël, on puisse en tirer des présages. Si Noël est en nouvelle ou pleine lune, c'est favorable. Si c'est en vieille lune, c'est moins rassurant. Un proverbe nous dit « Si Noël est sans lune, c'est-à-dire pendant les trois jours entre la fin de la lunaison précédente et le retour du premier croissant de la nouvelle lunaison, quand Nadal se trobo sense luno, de sen fedos se ne salvo pas uno. Quand Noël est sans lune, de sans brebis on n'en sauve pas une. » On enfoncera le clou en disant qu'il faut également tenir compte du jour de la semaine où se trouve Noël, certains jours étant favorables, d'autres pas, pour ce qui est de ce qu'il faut attendre de l'année suivante. Alors le chanoine Sol, curé du diocèse de Cahors, dans son vieux Quercy, ouvrage en deux tomes, nous dit ceci. Alors de nouveau, on va aller dans l'Occitan. « Quand Nadal est une dixos, cal vendre carretos et carrioles. Quand Noël est un jeudi, il faut vendre charrettes et charretons. Il n'y aura pas de récolte, donc ce sera la famine. Par contre, quand Nadal est une divendre, l'oublat rullo pei lai cendres. » Quand Noël est un vendredi, le blé roule, il y en a tellement qu'il roule dans les cendres. Il y en a tellement qu'on ne sait pas qu'en faire. En général, les proverbes nous disent qu'un Noël froid est bon signe. Il est signe de bonne récolte. Noël, c'est donc une date, une nuit, un jour, qui est celui du renouvellement cyclique du temps. Des cycles répétitifs du temps. Du zodiaque. C'est la roue de l'année qui revient sur elle-même. Et pour passer à autre chose, je vous rappellerai que lorsque, au début du IVe siècle, l'empereur romain, le premier empereur romain chrétien, Constantin, a décidé de fêter Noël, de fêter la naissance du Christ plus exactement, il l'a fixé au jour du 25 décembre, qui jusque-là était la fête du renouvellement du temps. Il y a donc une corrélation entre ces deux visions du temps, de l'espace et du calendrier. Alors nous allons donc maintenant écouter un peu de musique en attendant de passer à autre chose de plus historique encore. Espérons que je ne vous aurai pas effrayé. Alors maintenant, je vais vous parler de Nadal, pas du joueur de tennis, mais du Nadal occitan, Nadal et Noël, de l'occitan, du catalan, et c'est même de l'italien avec Natale. Alors qu'est-ce que c'est que Noël, dans nos dialectes donc, et qui permettent de retrouver ce qu'a été la mythologie chrétienne médiévale et même des mythes encore plus anciens. Alors vous savez qu'en occitan, Noël, ça se dit Nadal. Nadal, ça vient du latin Natalis, Natalis dies, le jour de la naissance. Alors qu'en français, c'est une chose intéressante, Noël vient du latin Noëllus, Noëllus diurnus, ou Noëlla dies, le jour nouveau. Il y a donc deux conceptions différentes. Pour les Occitans, Noël, c'est la fête de la naissance, alors naissance du Christ, naissance du temps. Pour les Français d'Oï, c'est le jour nouveau, le jour de la nouvelle année. C'est le jour du nouveau soleil, ce qui rejoint à la fois des mythes fort anciens, mais également ce qui est aux origines probablement de la fixation de la fête de la naissance du Christ au 25 décembre par Constantin. Chose qu'il faut maintenant aborder après cette petite introduction. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que j'ai appelé non pas les antiquités judaïques comme Flavius Joseph, mais j'ai appelé ça les antiquités nadalencos, les antiquités de Noël. L'explication ou les explications historiennes du pourquoi et du comment de la fixation de la fête de la naissance du Christ au 25 décembre. C'est un problème qui est souvent réglé superficiellement. Je vous disais tout à l'heure qu'à Alexandrie, on fêtait dans la nuit du 24 au 25 décembre le renouvellement du temps. Constantin, entre son accession au pouvoir universel dans l'Empire romain en 312-300... Bon, il était empereur depuis 306. Il devient véritablement maître de l'Occident romain en 312-313, puis de tout l'Empire romain en 325. Et c'est entre 325 et sa mort qu'il va décider la fixation de célébrer la fête de la naissance du Christ, le jour qui était jusque-là celui du renouvellement du temps. Il l'a fait en collaboration avec les évêques. N'oubliez pas que lorsqu'il est entré triomphalement à Rome à l'automne 312, il était entouré d'un cortège d'évêques, qu'il était le pontifex maximus du peuple romain, c'est-à-dire le chef de la religion romaine, et qu'à ce titre, il pouvait décider de tout en matière de religion. Donc, il a instauré une fête que l'Église ne célébrait pas jusque-là, car jusqu'à Constantin, l'Église ne célébrait pas la naissance du Christ. L'Église, les chrétiens, célébraient Pâques, la Passion et la Résurrection. La naissance de Jésus était laissée dans l'ombre. Le culte de Marie n'était pas encore même... Enfin, la dévotion envers la Sainte Vierge, ça n'avait pas pris l'ampleur que ça a pris de nos jours. Et dans ce cadre-là, Constantin a donc choisi un jour bien particulier, alors que, si on fait attention aux textes des évangiles, de Saint-Luc notamment, aux traditions des textes dits apocryphes, aux traditions encore entretenues dans le monde juif par des rabbins kabbalistes, aux traditions de l'Église d'Égypte, qui a longtemps fêté la naissance de Jésus au mois de juin, sait que cette naissance a eu lieu alors que les bergers gardaient leurs troupeaux la nuit dans les champs, donc entre avril et septembre. La tradition rabbinique veut que Jésus soit né un 8 août, ce qui, à mon avis, fait un rapport, mais alors c'est assez compliqué, avec une date. C'est pas notre mois solaire d'août, c'est le mois lunaire de Av ou de Ab dans le calendrier égyptien. Le 9 du mois d'Ab ou du mois d'Av, c'est la date de la destruction du temple. À toutes les époques du peuple juif, le temple a été détruit deux fois, et même trois fois avec la révolte de Bar Kochba. Le temple a toujours été détruit le 9 du mois d'Av. Et les rabbins, en fait, il y a une confusion avec le mois d'Av et le mois d'août. C'est vrai que ça se situe au même moment, juillet-août. Donc Jésus serait né la veille du jour où plus tard le temple devait être détruit. Il annonçait en quelque sorte la destruction du temple. Et ce temps des anciens, qui est un temps cyclique, devient donc avec Constantin un temps linéaire, c'est-à-dire que notre histoire est une histoire christocentrée. Elle est centrée sur l'avènement du Christ. Et avec la fixation de la date de la naissance de Jésus au 25 décembre, jusque-là fête du renouvellement du temps, Constantin remplace la notion cyclique du temps par une notion de temps linéaire, de temps progressif, non répétitif et ascensionnel. C'est donc l'opposé du concept du temps qui est exprimé par le dicton sur les 12 jours, annonçant le temps des 12 mois de l'année suivante. On sort du temps cyclique zodiacal, qui est un temps qui, en quelque sorte, soumet l'homme et la nature aux contraintes contre lesquelles il ne peut rien faire, aux contraintes et à la nécessité. On entre dans un temps qui est un temps de libération. C'est là même l'origine de la notion de progrès et de libération de l'homme, de l'univers, de la nature. Et c'est l'œuvre de Constantin. Alors, évidemment, Constantin, qui jusqu'à sa conversion dans les années 306-310, avait été élevé par son père, qui gouvernait la partie de l'Empire romain correspondant à ce qui est de nos jours, depuis le sud de l'Écosse jusqu'au Maroc, en passant par l'Angleterre, la France actuelle, l'Espagne, etc. Il avait été élevé dans le culte du soleil. Il a eu des révélations, il a eu des apparitions, il a eu des manifestations paranormales, surnaturelles, qui l'ont amené à, comment dirais-je, voir dans le Christ des théologiens, la réalisation des idées, des notions contenues dans le culte traditionnel du soleil. Or, il ne faut pas oublier qu'à Rome, le culte du soleil est récent. Il date des années 270-274, quand un empereur qui portait un nom prédestiné, Aurelianus, sur la base Aurel, qui en nom pas en latin, c'est dans un dialecte du centre de l'Italie, le dialecte des Apennins. Aurel est une forme. Alors, la forme d'origine, c'est Aucel, et ça veut dire le soleil. Alors Aurelianus, ça veut dire le solaire. Et Aurelianus, empereur de 270 à 274, est celui qui a introduit à Rome, instauré le culte du soleil, que Rome ignorait jusque-là. Et il a fixé la date de la renaissance du soleil invincible. On considère que le soleil meurt le 23 décembre et qu'il renaît dans la nuit du 24 au 25. Il a fixé cette date de la renaissance du soleil au solstice d'hiver, dans le calendrier de Jules César, qui restait le solstice d'hiver liturgique de l'Église catholique, c'est-à-dire la nuit du 24 au 25 décembre. Il y a donc eu, si vous voulez, de la part de Constantin, non pas une volonté de christianiser, ça c'est une fausse vision des choses, mais une volonté d'accomplir. Il a vu dans le christianisme l'accomplissement des vertus, des valeurs portées par l'éducation, disons, de type monothéiste, qui avait été la sienne. On ne parle non pas de monothéisme, mais de énothéisme, c'est-à-dire la croyance, l'adhésion à l'idée qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste sous des formes multiples. Et Constantin a donc fait de Noël, ce qu'il est resté en français d'oeil, la fête du nouveau soleil. Le nouveau soleil, c'est le Christ en tant que soleil de justice, soleil de sainteté. Et quand on connaît un peu l'histoire de l'Empire romain dans ces années-là, l'Empire romain qui est en quelque sorte réunifié, restauré par les prédécesseurs immédiats de Constantin, depuis Aurélien à Constantin lui-même en passant par Dioclétien, cette unité retrouvée de l'Empire va se manifester dans l'image et dans la formation de l'image du Christ en souverain universel, en pantocrator, en tout-puissant. Et cette fixation de la fête de la naissance du Christ pour le 25 décembre, par Constantin, a lieu après 325, qui est une date clé, une année clé, parce que c'est l'année où il a réuni un concile à Nicée, en Asie mineure actuelle ville turque de Iznik, un concile qui a été réuni par Constantin pour, mettre un terme aux difficultés suscitées dans l'Église par la diffusion des idées d'un prêtre d'Alexandrie, toujours Alexandrie, Arius. Il était originaire de Cyrène, en Libye actuelle. Et Arius avait développé des opinions qui reposent sur sa conception du temps et de l'éternité. Arius avait une vision de l'éternité, alors en termes de philosophie en général, philosophie platonicienne et théologie catholique. L'éternité, ce n'est pas un état, c'est l'être de Dieu en dehors de la matière, de l'espace et du temps. Dieu est hors du temps. Et pour Arius, Dieu est dans le temps. Arius ne conçoit pas l'éternité. Pour lui, l'éternité, cet infini hors du temps, est impossible à imaginer. Il conçoit l'éternité comme un temps infini, qui n'a pas de commencement connu ni de fin connue. Donc un temps qui peut être cyclique. Et Arius développe une idée selon laquelle Dieu, le Créateur, Yahvé Elohim de l'Ancien Testament, avant la création, était seul. Bon, ça, on retrouve ça dans la Kabbale judaïque. Dieu décide de créer le monde, l'univers, le temps, l'espace, la matière. Pour cela, il a besoin d'un outil, d'un instrument. Et il crée un verbe, une parole toute puissante, qui ensuite, ça c'est la tradition catholique, s'incarne en Jésus de Nazareth. Mais Arius, en faisant du verbe divin, le Logos, incarné en Jésus, une puissance divine créée par le Dieu tout-puissant, créateur primordial, il fait du verbe divin un Dieu secondaire, un Dieu inférieur. Il établit une hiérarchie au sein de Dieu. Et au fond, Arius arrive à développer, à faire du Dieu des chrétiens, non pas ce qu'il sera par la suite une trinité, mais une triade de trois dieux superposés, si vous voulez, subordonnés. Et c'est contre ces théories que Constantin réunit le concile, qui va donc condamner Arius, qui avait déjà été condamné par l'évêque, par les prêtres d'Alexandrie, par l'église d'Alexandrie. Et le concile de Nicée, c'est même Constantin, on le sait, qui a formulé le credo de Nicée. Il a imposé sa volonté aux évêques. Le concile de Nicée va déclarer le verbe divin comme non pas créé par Dieu, mais engendré dans l'être de Dieu, donc dans l'éternité. On parle d'engendrement ontologique, et non pas chronologique. Donc, le verbe divin est engendré hors de la matière, hors de l'espace et hors du temps. Il n'a eu aucun commencement, il n'aura pas de fin. Alors que les fidèles d'Arius chantaient dans les rues d'Alexandrie qu'il fut un temps où le verbe n'existait pas. Et c'est le problème de la conception du temps et de l'éternité. Voilà, pour Arius, le temps, c'est un flux. Bon, ça c'est vrai pour tous les philosophes. Il y voit peut-être non pas un temps cyclique, mais un flux infini, alors que pour les théologiens catholiques, l'éternité, c'est l'être de Dieu hors du temps. Donc, si vous voulez, il y avait un problème de notion philosophique et de vocabulaire en même temps. Et cela va se retrouver dans nos traditions sur Noël, que nous allons voir maintenant, après une petite pause musicale. Et je vais vous parler des traditions et coutumes de Noël en Quercy et ailleurs. Reprenons avec un petit retour sur cette période de festivité, cette période qui baigne dans la lumière argentée de Noël, dans les sons des grelots, des cascabelles et des cascabels, est une période qui, dans les mentalités anciennes, peut être une période sombre et tragique. Il y a un tabou et un interdit qui pèse sur les 12 jours entre Noël et le jour des rois et qui fait pester certains membres de ma famille, tabou que je tiens toujours de mon père qui le tenait de sa grand-mère. Alors elle lui disait que il ne fallait pas laver le linge pendant les 12 jours entre Noël et le jour des rois parce que pendant cette période-là, alors que les rivières sont gonflées des pluies de décembre et que c'est une des meilleures périodes lorsqu'on n'avait pas de machine à laver pour faire les grandes lessives. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les eaux de rivières et de sources qui sont gonflées donc par les pluies de décembre sont réservées à la Sainte Vierge qui lave les linges de l'enfant Jésus. Au fond, c'est toujours cette idée d'un temps répétitif, cyclique, où tout recommence, où tout ce qui a été sera, et où tout le cycle qui recommence sans cesse. C'était la période des Bugados en Occitan, et il y avait un tabou que l'on retrouve en Alsace, que l'on retrouve en Hongrie, aussi bien pour la période des 12 jours entre Noël et le jour des rois, que pour la semaine sainte juste avant Pâques. On voit donc, si vous voulez, pour ces populations anciennes, c'était là une période, en grec du reste, période, ça veut dire ça veut dire le retour sur soi. C'est une période où, entre Noël et le jour des rois, entre la fête du soleil invincible et celle de la naissance du temps infini, on est dans une période hors du temps, une période qui est sous la dominance de la Sainte Vierge, qui est maîtresse des eaux. Elle est la maîtresse, au fond, de ces eaux qui sont la représentation matérielle, visible, du flux du temps infini. Le temps est un flux dans lequel on ne descend, on ne se baigne qu'une seule fois. Il faut savoir qu'en grec, baigner ou se plonger dans l'eau, c'est baptisdein, ça va donner baptiser. Or, chez les Grecs du monde méditerranéen oriental, dans la culture d'Alexandrie, par exemple, et d'Athènes, le 6 janvier, on fêtait, je vous le disais tout à l'heure, l'épiphanie du temps infini, l'épiphanéia du temps qui ne cesse jamais. Et ce temps qui est infini était dit pour renaître d'une vierge, d'une parthénos en grec. Donc, on a là cette conception du temps infini qui se renouvelle périodiquement. C'est le vieil héritage qui vient des origines les plus lointaines de la Grèce et qui imprègne la pensée d'avant Socrate, d'avant Platon. On la retrouve à l'état, si vous voulez, de tradition populaire chez nos paysans d'entre la Loire et les Pyrénées, alors que la pensée philosophique grecque qui va mettre en forme et informer la pensée théologique chrétienne, elle va se développer dans un sens beaucoup plus logique, beaucoup plus rationnel. Je vais essayer de vous en parler à propos des rites populaires d'entre Noël et le jour des rois, de ce qui caractérise pour beaucoup de populations les fêtes de Noël, à savoir les rites et les traditions qui tournent autour de la crèche, de l'arbre de Noël. Alors, dans le monde cucancien que j'ai connu, la confection de la crèche occupait tout le temps de l'Avent. C'était même une compétition entre dames sacristines des différentes paroisses à qui aurait la plus belle, la plus somptueuse, la plus majestueuse des crèches, reproduisant des paysages de Toscane, de Judée antique ou de Provence. La crèche n'était dévoilée que juste avant la messe de minuit. Jusque-là, les crèches étaient voilées par un grand rideau. On ne pouvait pas savoir ce qui se préparait derrière. Je me vois encore l'abbé Coste dire en chaire qu'enfin les enfants allaient pouvoir admirer le paysage de la crèche dans ce qui était alors la chapelle du Sacré-Cœur, dans Saint-Hilaire de Montcuq. Alors la crèche, bon ça tout le monde le sait, c'est quelque chose qui a été inventé, si on peut dire, par Saint-François d'Assise, mais à partir des évangiles apocryphes et de toutes les légendes qui tournaient autour de la Sainte Famille de la naissance du Christ. Y compris, par exemple, la présence du bœuf. Alors dans certains textes anciens, Joseph aurait amené un bœuf pour l'offrir en sacrifice au temple de Jérusalem en rémission du péché. Le péché, c'était le recensement. L'âne aurait été celui sur lequel aurait siégé, aurait été assise la Sainte Vierge pour venir de Nazareth à Bethléem. Il faut savoir que, en hébreu, être assis sur un âne, ça revient à dire, la racine, c'est la racine MRKB, qui va donner Merkaba, le char divin, c'est le trône de Dieu. Donc, être assis sur un âne, c'est, ça veut dire trôner comme Dieu, si vous voulez. Bon, on pourrait dire que l'âne, évidemment, de la crèche, c'est l'opposé de la mule noire du Touron, dans le légendaire de Montcuq. Ce qui est beaucoup plus marquant dans l'imaginaire, c'est la présence de l'arbre de Noël, qui n'est pas du tout païen. Alors là, c'est une ânerie à laquelle il faut tordre le cou. En fait, l'arbre de Noël, c'est ce qui nous est revenu au XIXe siècle par les États-Unis, d'une vieille tradition qui était générale dans l'Europe ancienne, l'Europe chrétienne, que l'on a longtemps conservée dans la vallée du Rhin, et qui consistait, pendant l'Avent, alors soit sur le parvis des églises, surtout des cathédrales, soit dans le chœur, à dresser deux arbres, un arbre sec, sur lequel on accrochait des pommes rouges, et qui représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du péché, et un arbre vert, qui représentait l'arbre de vie, qui, d'après la Genèse, se trouvait, alors là, la Genèse confond les deux arbres en un seul, au centre du jardin d'Éden, et au pied de cet arbre de vie sortaient quatre fleuves qui irriguaient le jardin, bon, etc. Alors cette tradition s'est maintenue en Alsace et dans les pays rhénans. Elle est passée aux États-Unis, elle est revenue ensuite en Europe sous la forme de l'arbre de Noël, mais qui est aux origines, en fait, l'arbre vert en question, l'arbre de vie, c'est la préfiguration de la croix du Christ, de la croix salvatrice, de la croix rédemptrice. Et cette tradition, elle est d'introduction récente. La véritable tradition qui marque bien la nuit de Noël dans nos régions, c'est celle du cachofio, du cachofioc, c'est-à-dire du cherche-feu. Et Mistral nous en parle dans ses Memories et Racontes, le chanoine Sol dans son vieux Quercy. Alors, qu'est-ce que c'est que le cachofioc? Ça consiste le soir de Noël, enfin le soir du 24 décembre, avant la messe de minuit. Après, du reste, un gros souper qui, même en Quercy et comme en Provence, est composé de fruits secs, de gâteaux et de vin, quelquefois d'oranges, de chocolat chaud, de crêpes et autres. Ça consiste pour l'homme le plus âgé de la famille, de la maison, à aller dans le verger, couper, enfin on l'a déjà préparé à l'avance, chercher dans le bûcher, disons, une souche d'arbre fruitier, c'est toujours un fruitier, qu'il porte, précédé par le plus jeune garçon de la famille qui marche devant lui. Le plus vieux et le plus jeune font le tour de la cuisine, vont déposer la bûche dans la cheminée, le Lukantu. On allume la bûche qui doit brûler au moins jusque, si possible, jusqu'au roi. Et cette bûche, qui est cette source d'arbres fruitiers, est bénite par le grand-père avec de l'eau bénite qu'on a mis de côté, que l'on conserve toujours en permanence dans la maison pour, avec les rameaux bénis, protéger la maison de tous les dangers. S'y ajoutent les charbons tirés de la bûche de Noël, de la bûche qui se consume dans l'âtre pendant toute la période des 12 jours. Et ces charbons, cette eau bénite, ces rameaux rentrent dans la compétence exclusive de la mère de famille. C'est la maîtresse de l'hostal, c'est pas le père de famille, c'est la maîtresse de maison qui est compétente pour utiliser ces talismans, charbon de la bûche de Noël, rameaux bénis, eau bénite pour protéger la maison en cas d'orage, de maladie, de danger, etc., etc. De différents dangers qui peuvent atteindre la maison. On a donc là, si vous voulez, à travers ce rite, la manifestation de la puissance de la femme en tant que mère sur l'abondance, la santé, la force, la vigueur dans la maison. Ça rejoint un peu la dominance des 12 jours entre Noël et le jour des rois par ce que les Grecs appelaient une parthénos, qui est la Sainte Vierge dans la théologie, dans l'optique chrétienne. Alors évidemment, avant la messe de minuit, ceux qui voulaient communier ne devaient pas avoir mangé depuis au moins midi, la veille de midi du 24 décembre. Ils sortaient de la messe, l'estomac dans les talons, évidemment. Ma mère me disait que c'était un petit repas de rien du tout. C'était des coques, des crêpes, du chocolat chaud, c'était pas grand-chose. Avant d'aller au lit, le Quercy ancien ne faisait pas de réveillon. Par contre, à Montcuq, la messe de minuit, c'était le grand jour triomphal et solennel, où brillait dans tous ses éclats la chorale de Saint-Hilaire, dirigée, soutenue par un harmonium aux allures d'orgue, et où Clémence Gras, en son temps, triomphait dans un minuit chrétien majestueux et époustouflant. Elle avait une très belle voix de soprano, elle était assistée par d'autres très belles voix, je pense notamment à Madeleine Combarieu qui avait une voix d'opéra. Ma mère me disait, même des gens qui ne mettaient jamais les pieds à l'église, même des anticléricaux ne rataient pas la messe de minuit à cause de l'atmosphère. Des chants, de la musique de l'harmonium, du sermon de l'abbé Montjoie, personnage encore présent dans certaines mémoires, et surtout la voix superbe de Clémence Gras. Et donc, dans le cœur, si vous voulez, de Saint-Hilaire, n'était pas orné, comme il l'aurait été au Moyen-Âge, d'un arbre sec et d'un arbre vert. Cette tradition ne se rencontre pas à Montcuq. Par contre, ce qui est intéressant à Montcuq, c'est les sculptures de l'abside qui, elles, révèlent au Moyen-Âge la pratique de certaines coutumes interdites par les conciles et par les synodes et malgré tout imposées au clergé par les populations, celle de danse masquée et rythmée pendant les 12 jours entre Noël et le jour des rois dans le cœur des églises. Et c'est les sculptures de l'abside, du niveau médian de l'abside, ces sculptures qui me prouvent que dans le Montcuq médiéval, cette tradition devait être observée, alors qu'elle était interdite. Ces danses étaient des danses qui s'enroulaient et se déroulaient un peu comme des farandoles, comme les vagues de la mer, si vous voulez. Le clergé devait se couvrir de peaux d'animaux et se masquer le visage de mufles d'animaux. Ça avait pour but d'assurer la renaissance de la nature au sortir des 12 jours de Noël au roi. Donc on était là, si vous voulez, dans une optique de revivification, je vais pas le dire, de la nature par des rites spéciaux aux 12 jours entre Noël et le jour des rois. Alors ces rites, c'était, je vous l'ai dit, la crèche, les arbres de Noël, les danses masquées, et également, surtout, la bûche de Noël dans l'âtre, qui était la source de charbon qui protégeait les maisons et les oustals de tous les dangers qui pouvaient leur survenir. Dans le vieux Montcuq, ce rôle était assuré par les feuilles de lierre sculptées sur les chapiteaux de certaines maisons du vieux Montcuq, et aussi qui se retrouve sculpté dans le carré du faux transept de Saint-Hilaire. Là, on avait là, avec le lierre, un autre élément protecteur contre les dangers qui pouvaient frapper les édifices privés ou publics, même religieux. On est donc là dans le vieux Montcuq, mais également dans toute l'ancienne Aquitaine, dans un monde qui vit son christianisme à travers la perpétuation de rites et de traditions beaucoup plus vieux, beaucoup plus anciens que le christianisme, de rites et traditions qui sont étrangers au christianisme, qui ne lui sont pas hostiles, qui ne lui sont pas contraires, et que l'Église va récupérer, notamment par la fixation de la naissance du Christ au 25 décembre, de sa manifestation au monde le 6 janvier, et pendant les 12 jours, de rites, de traditions populaires, familiales, dans des familles très chrétiennes et très catholiques. C'est pas là une rémanence de paganisme, c'est une christianisation de traditions bien antérieures au christianisme, Ce qui faisait dire du reste à certains, c'est Saint-Augustin qui le dit lui-même, le christianisme est beaucoup plus vieux, beaucoup plus ancien que le Christ lui-même. Voilà, nous nous reverrons au mois de janvier qui vient, et comme on dit en occitan, à l'an qui ve, et se sen pas mai, que siagen pas men. À l'an qui vient, et si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. Au revoir.